Voilà, mes amis, comme je l'ai annoncé juste avant Shabbat, j'ai l'intention de reprendre pour un long moment des cours très importants que j'avais arrêtés parce que, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo courte de 15 minutes, j'avais le sentiment très profond et je l'ai réalisé d'une certaine manière. J'avais le sentiment très profond que l'une de mes missions était de réveiller un maximum d'hommes et de femmes parmi les nations et aussi d'engager des cours avec eux par l'intermédiaire de Zoom. Et c'est ce que j'ai fait pendant un long moment. Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, comme je l'ai déjà dit, mais je préfère le redire. C'est que finalement, les Bnei Adam eux-mêmes m'ont dit, écoutez, Rav, on voudrait maintenant revenir et écouter vos cours profonds que vous donniez dans le passé sur le Tanya, sur le Zohar, sur le Nahr, la Bible en français. Et on voudrait que vous arrêtiez même les cours avec nous de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur des cours plus profonds encore qui nous permettraient à nous de nous élever, de nous construire et bien évidemment, je m'adresse aussi à tous les enfants d'Israël. Et donc, finalement, j'ai pris cette décision. Je vais arrêter pendant un long moment mes Zooms avec une grande partie des nations. Et pour les juifs comme pour les non-juifs, je vais revenir à des cours profonds qui vont nous permettre à nous tous de nous construire et de nous élever dans finalement le sens profond de notre existence qui est de devenir des hommes authentiques. Je vais donner 3 cours par semaine. Le dimanche, ça sera un cours de Tanya. Le mardi matin, un cours de Zohar. Et le mercredi ou le jeudi, ça ne sera pas forcément ou le mercredi ou le jeudi, mais en tous les cas, le troisième cours sera un cours sur le Tanakh, la Bible en français. Et je pense que je vais reprendre, pour l'instant, je vais commencer avec l'histoire du roi David. C'est des cours que j'avais déjà fait il y a très très longtemps, mais évidemment la Torah est infinie, donc il n'y a aucun risque que je répète les mêmes choses que j'ai déjà dit il y a de nombreuses années. Ça va être une approche plus profonde, une approche plus forte encore, parce qu'entre-temps, on a mûri, on a étudié encore plus la Torah. Et donc, en plus des cours que je donne avec Eliyahu Bokhara sur le Likutey Moharan de Rabbi Nachman de Breslev, mes cours avec Monsieur Abaou, mon cours de chez K1, je rajoute 3 cours, ce qui fera 6 cours par semaine. Donc un cours de Tanya, un cours de Zohar, on va commencer à partir du début du Zohar, et on va commencer l'histoire du roi David dans le Tanakh. Donc aujourd'hui, un cours de Tanya. Je tiens juste à faire une petite introduction. Comme vous le savez, le Tanya a été écrit par le Admor HaZaken, le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la Chassidut Chabad ou la Chassidut Lubavitch. Mais je préfère dire la Chassidut Chabad. Chabad, ce sont les initiales de Chochma Bina Da'at, la sagesse, l'intelligence et l'union. Da'at, c'est l'union entre la sagesse et l'intelligence. Et c'est pour ça que cette chassidoute s'appelle Chabad, parce que on pourrait dire, elle approfondit des notions de sagesse extrêmement, extrêmement profondes. On va commencer le Tanya à partir du début. Il est évident que je ne vais pas lire chaque ligne du Tanya, je choisirai des morceaux importants. Je tenais à préciser que le Tanya est un livre complètement, totalement, absolument codé. Il est absolument inconcevable d'imaginer que lorsque l'on lit en hébreu ou traduit, on lit une phrase du Tanya, ça y est, on a compris ce que le fondateur de la Chassidoute Chabad voulait dire. Tout est absolument codé. Le Baal HaTanya, est arrivé en utilisant des mots d'une précision inimaginable à nous transmettre des messages extrêmement forts. Et voilà, on va commencer aujourd'hui, on va aller doucement parce que chaque ligne, chaque mot, chaque lettre contient des secrets absolument inimaginables. Alors on reprend le Tanya au début, je vais lire les deux, trois premières phrases et pour l'instant on s'arrêtera là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tanya. Il est écrit dans le traité Maseret Nida, dans un des traités du Talmud, que avant qu'un homme existe dans ce monde, avant que son âme ne descende et ne s'habille dans le corps, à ce moment-là, l'âme passe devant le maître du monde et on lui fait prêter un serment, Majbi'imoto, on fait jurer l'âme et on lui dit Te'i Tzadik. Dans le monde dans lequel tu vas descendre, on veut que tu sois un tzaddik. Va'al te'e racha, et ne sois pas un racha. Et on rajoute, c'est les trois parties du serment, et après je vais expliquer. Ve'afilu kol ha'olam kulo omrim lecha tzaddik ata, et même si tu arrives à devenir un tzaddik, et que le monde entier dise de toi que tu es un tzaddik, eye be'inecha ke racha, à tes propres yeux, tu dois te voir comme un méchant. Alors, un serment extrêmement, extrêmement compliqué, et je vais poser deux questions. D'abord, à partir du moment où on fait jurer l'âme qu'elle doit être un tzaddik, alors pourquoi rajouter « ne sois pas un rachat » À partir du moment où l'âme s'engage à devenir un tzaddik, il est évident que l'âme va tout faire dans ce monde pour ne pas être un rachat. Donc, pourquoi préciser « et ne sois pas un rachat » Deuxième question, comment est-il possible, à partir du moment où l'âme s'engage, enfin l'être s'engage à être un tzaddik, le serment termine en disant, et si le monde entier dit que tu es un tzaddik, tu dois à tes propres yeux te voir comme un rachat, comme un méchant. On verra que le Baal HaTanya posera lui aussi cette question sur comment est-il possible qu'un homme se voie comme un rachat. Il rapportera des preuves qu'un homme n'a pas le droit de se voir comme un rachat. Mais on avancera doucement car chaque notion est importante. Alors, je vais commencer à expliquer. Comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, et c'est une notion sur laquelle je suis obligé de revenir dans le Tanya, quand on demande à la personne, avant qu'elle commence à se réaliser dans ce monde, soit un tzaddik, il faut comprendre c'est quoi la notion de tzaddik. Est-ce qu'un tzaddik c'est quelqu'un qui est entièrement dévoué au service divin, c'est-à-dire que s'il en a les moyens ou s'il le choisit, même s'il a des difficultés financières, il choisit d'être un homme d'études, d'être un homme d'enseignement, d'être un homme de prière, un homme qui consacre toute sa vie au service divin, ou bien un tzaddik c'est celui qui, bien évidemment, s'accroche de toutes ses forces au maître du monde, mais en même temps a une activité dans le monde matériel. Il travaille, il peut être agriculteur, cordonnier, menuisier, médecin, avocat, homme d'affaires, mais il a une activité dans ce monde. Alors, c'est quoi le véritable tzaddik? Comme je l'ai souvent expliqué, malheureusement depuis des millénaires, nous appelons tzaddik un homme qui est entièrement consacré au service divin, qui étudie, qui transmet des enseignements de Torah, qui prie, qui accomplit les commandements divins et qui est encore une fois dans sa vie entièrement, je pourrais dire dans le monde d'en haut, mais qu'il n'a aucune connexion avec le monde d'en bas, ce n'est pas quelqu'un qui travaille. Comme nous l'avons expliqué des milliers de fois, et je vais le redire aujourd'hui, celui-là n'est absolument pas un tzaddik. C'est quelqu'un qui étudie, qui transmet la Torah, mais il n'a rien à voir avec le tzaddik. Et on va comprendre pourquoi justement après on dit « ne sois pas un rachat ». Le tzaddik, nous le voyons une seule fois dans la Torah. C'est Yosef. Yosef est appelé Yosef HaTzaddik. C'est le seul de tous les personnages bibliques que l'on appelle tzaddik. Et pourquoi ? Parce que c'est le seul de tous les personnages bibliques qui a consacré pratiquement toute sa vie à être en bas et ne jamais tomber. Il a été vendu en Égypte à l'âge de 17 ans. Sa première épreuve a été avec la femme de Potiphar, il n'est pas tombé. Après, il a été 12 ans dans une prison, il y a 4000 ans, où on pouvait tenir que quelques semaines, que quelques mois dans une prison égyptienne il y a 4000 ans. Jusqu'à aujourd'hui encore, tout le monde le sait, dans une prison égyptienne, irakienne, syrienne, on tient au maximum un an, puis on meurt, tellement la vie est d'une difficulté qui dépasse l'atrocité. Et on ne peut pas tenir longtemps dans une prison égyptienne, même aujourd'hui dans le monde moderne, à plus forte raison il y a 4000 ans. Et pourtant, Yosef a tenu 12 ans dans cette prison, et il s'en est sorti. Et sa dernière et la plus grande épreuve, il est devenu le dirigeant de l'Égypte pendant 80 années, le pays le plus corrompu, le plus idolâtre, le plus débauché. Et donc, de l'âge de 17 ans à 110 ans, il n'est jamais, jamais, jamais tombé, ni dans la débauche, ni dans l'idolâtrie, ni dans la corruption, alors qu'il était complètement impliqué dans le monde d'en bas. On comprend pourquoi lui, on l'appelle tzaddik. Un homme qui, encore une fois, ne vit que de spiritualité, n'est absolument pas un tzaddik. C'est un bon juif, un homme bien, mais rien de plus. Pour pouvoir devenir un tzaddik, il faut que tu sois impliqué dans ce monde, que tu aies des tentations, des épreuves, des séductions, et que tu ne tombes jamais, comme Yosef. Ça, c'est le véritable tzaddik. Maintenant, on comprend pourquoi on rajoute « et ne sois pas un rachat ». Ma question était, mais s'il s'engage à être un tzaddik, évidemment, il ne sera pas un rachat. Mais justement, d'après ce que j'ai expliqué, on comprend parfaitement ce que dit le Tanya. Pourquoi il ne soit pas un rachat ? Justement, puisque pour être un tzaddik, il faut être dans ce monde, et puisque dans ce monde, il y a énormément de tentations, de séductions et de pièges, c'est pour ça qu'on insiste et on lui dit, même que tu vas être dans ce monde, que tu vas être tenté par les femmes, tenté par les hommes, que tu vas être tenté par la corruption, par l'idolâtrie, par tout le système mensonger de ce monde, le politique, etc. Ne tombe pas, ne sois pas un rachat. Si, malheureusement, et ce qui est faux, un tzaddik est celui qui est toute la journée dans une maison d'études et de prières, on n'a pas besoin de lui dire s'il s'engage à être un tzaddik, ne soit pas un rachat. Il ne voit pas de femme, il n'est pas corrompu, il ne triche pas, il vit dans un monde spirituel. Pourquoi voulez-vous qu'il devienne un rachat? Mais puisque ici, le vrai tzaddik est quelqu'un qui va être impliqué dans ce monde et qui ne va pas tomber, on comprend pourquoi on lui dit ne soit pas un rachat. C'est-à-dire que malgré toutes les épreuves que tu vas traverser, tu dois être un homme fort, un homme authentique, et ne tombe pas, comme Yosef Hatzadik. Donc, les deux premières phrases nous font comprendre quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas descendus dans ce monde pour nous réfugier dans un monde illusoire qui est un monde spirituel déconnecté de ce monde. Sinon, Dieu aurait pu laisser notre âme en haut. Pourquoi la fait-il descendre dans le monde d'en bas? Justement pour nous éprouver et pour tester notre force, pour tester notre volonté, pour tester notre courage et notre détermination à être impliqués dans ce monde et malgré tout de ne jamais tomber. Ça, c'est le juste véritable. Comme je n'ai cessé de le dire, aujourd'hui on appelle un tzaddik un grand rave qui se consacre uniquement à une vie spirituelle. Et si quelqu'un est un homme d'affaires ou quelqu'un bon qui travaille, qui est en même temps très fort accroché à Dieu, mais qui passe une partie de sa journée à travailler, mais qui est un homme droit, un homme juste, qui n'est pas corrompu, qui ne ment pas, qui ne fait pas de mal à personne, on va pas l'appeler tzaddik. On va dire c'est un homme bien, mais par contre le grand rave est un tzaddik. Un jour viendra où on comprendra l'erreur que nous traînons avec nous depuis des millénaires. On cessera d'appeler un rave un tzaddik et on appellera un homme qui travaille dans ce monde, mais qui est un homme droit, un homme juste, un homme intègre, qui ne tombe pas et qui ne fait tomber personne, Cet homme-là, on l'appellera le tzaddik, exactement comme Yosef a tzaddik. D'ailleurs, je m'étonne comment des milliers de juifs étudient la Torah et étudient l'histoire de Yosef a tzaddik et continuent à vivre dans ce fantasme d'appeler tzaddikim des gens qui sont déconnectés de ce monde. Donc il est temps de, on pourrait dire, de commencer cette révolution et de chercher les vrais tzaddikim qui sont dans ce monde, qui sont des hommes droits, des hommes justes, qui malgré le fait qu'ils sont impliqués dans ce monde matériel, malgré toutes les épreuves et les tentations de ce monde, ils ne tombent pas. Ça, c'est un vrai tzaddik. On va maintenant s'intéresser à la dernière phrase qui est extrêmement difficile. On va voir que le Baal HaTanya lui-même va se poser la question sur cette dernière phrase. Si le monde entier dit que tu es un tzaddik, à tes yeux, sois un rachat. Cette phrase est complètement incompréhensible. Si je suis un homme d'affaires qui est en même temps accroché à Hachem, dès que j'ai un moment, j'étudie la Torah. Si j'en ai les capacités, je donne même des cours de Torah. Mais en même temps, je travaille. Et dans mon travail, je suis un homme propre, un homme droit, un homme juste, un homme intègre. Et que des dizaines, des centaines, des milliers de personnes commencent à me connaître et pointent le doigt sur moi et disent « Oh, regardez, ça c'est un vrai tzaddik !» Comment le Tanya, enfin non, c'est pas le Tanya, comment le Talmud peut dire que tu dois te voir à tes yeux comme un rachat? D'ailleurs, regardons la question que va demander le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya demande « Vetzarir l'avin, je voudrais comprendre. » Pourtant, il y a un enseignement clair qui dit, il rapporte un enseignement du Talmud qui dit « Val te'er rachat bifne atzmecha » Tu n'as pas le droit de te considérer comme un rachat. Donc comment? Il y a une contradiction dans le Talmud. Il y a une partie du Talmud qui dit que tu dois te voir à tes yeux comme un rachat et une autre partie qui dit que tu ne dois pas te considérer comme un rachat. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous révéler un secret extraordinaire qui est dans les mots même du texte. Le texte dit « tu dois te considérer à tes yeux comme un rachat ». Pourquoi préciser les yeux? Considère-toi comme un rachat. Pourquoi à tes yeux? Pourquoi le Talmud rajoute le terme les yeux? Nous savons que dans le Shema Israël, dans la prière la plus importante que nous récitons deux fois par jour, nous disons Velota Turu Achareinechem. Ne vous laissez pas piéger par vos yeux. Qu'est-ce que représentent les yeux? Les yeux, c'est le monde de l'extériorité, c'est le monde que je vois autour de moi. C'est finalement, mes yeux me cachent l'intériorité de ce monde. Comme nous le savons, je l'ai dit dans différents cours, que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Il ne s'agit pas de la lumière des astres, du soleil, de la lune ou des étoiles, puisque les astres ont été créés le quatrième jour. De quelle lumière s'agit-il? Il s'agit d'une lumière spirituelle d'une intensité inimaginable, et le Zohar dit que cette lumière, c'est la lumière de la délivrance finale, qui nous accompagne tout au long de l'histoire. Et nos maîtres disent que Dieu a caché cette lumière. Où il l'a cachée? Précisément dans le monde matériel, dans le monde d'en bas. La lumière cachée n'est pas dans une synagogue, ni dans une yeshiva, ni dans un centre d'études. La lumière cachée, la lumière de la délivrance, est dans un bureau où un homme travaille avec propreté et intégrité. Et à ce moment-là, il se connecte à la lumière cachée. Et il devient un véritable juste, un véritable tzaddik. Donc, la grande majorité des hommes qui ne suivent que leurs yeux ne savent pas qu'il y a une lumière inimaginable qui est cachée dans ce monde. Sans compter toutes les autres choses qui sont cachées dans ce monde que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. Donnons un autre exemple. Un homme jeune est attiré par une belle femme. Il ne va pas se poser la question, mais qui est-elle à l'intérieur d'elle-même? Est-ce que c'est une femme bien? Est-ce que c'est une femme juste? Est-ce que c'est une femme propre? Dans un premier temps, il va être intéressé par son corps uniquement. Donc, il suit ses yeux. C'est pour ça que dans la prière, on dit « Ne suivez pas vos yeux. Cherchez l'intériorité. Regardez ce qui, justement, n'est pas visible par vos yeux. » Donc, en vérité, les yeux nous amène dans un monde extrêmement artificiel, extrêmement superficiel, Et on peut dire sans la moindre hésitation que 90%, pour ne pas dire 99% des hommes et des femmes dans ce monde vivent d'après leurs yeux. Ils ne se posent pas de questions. Ils acceptent ce qu'ils voient, un point, c'est tout. Et ils ne se posent pas la question que peut-être que cette vitrine, en vérité, n'est qu'une apparence extrêmement mensongère, artificielle, qui cache en vérité des choses soit très dangereuses, soit d'un autre côté des choses très bonnes que l'on ne voit pas. Alors maintenant, on va comprendre ce que dit ce texte-là. Même si le monde entier dit que tu es un tzaddik, n'oublie jamais. C'est pas que tu dois te voir comme un rachat dans le sens, comme on va le comprendre, que tu es un vrai rachat. Mais n'oublie jamais que quand tu suis tes yeux, tu deviens un rachat. Tu deviens un homme méchant. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, nos yeux nous déconnectent de l'intériorité de ce monde. Nos yeux nous déconnectent de tout ce qui est caché à l'intérieur de ce monde. Et lorsque l'on suit ses yeux, on devient d'une certaine manière un homme méchant. Parce qu'on tombe dans toutes les tentations, dans toutes les séductions de ce monde. C'est pour ça que ici, comment qu'il faut comprendre cette phrase ? Même si le monde entier dit que tu es un tzaddik, et c'est vrai que tu es un tzaddik, parce que tu es un homme qui travaille, tu es un homme propre, tu es un homme droit, tu es un homme intègre. Attention à tes yeux. Ne te laisse pas guider par tes yeux, parce que même si aujourd'hui tu es un homme droit, tu es un homme intègre, si tu suis tes yeux, tu finiras par tomber. Je peux donner un exemple, aussi incroyable que ce soit. La Torah nous dit clairement que le roi David est tombé et finalement a pris Bathsheba plus ou moins de force parce qu'il était sur son balcon et puis il a vu en face, dans une maison en face, il a vu Bathsheba qui était extrêmement belle et il est tombé. Pourtant, David était un homme, un vrai tzaddik, puisque c'est un guerrier, c'est un politicien, c'est un dirigeant et un homme d'une droiture, d'une justesse. Lui, c'est vraiment l'exemple du vrai tzaddik. C'est pas quelqu'un qui vit uniquement d'études et de prières. Il se bat, il combat, il s'occupe de son pays. Et pourtant, malgré le fait que tout le monde était en droit de dire que c'est un juste, c'est un tzaddik, malgré tout, il est tombé. Quand il a vu une belle femme avec ses yeux, il est tombé. C'est vrai, ce n'était pas un adultère, comme on le sait, parce que David avait imposé que tout mari qui part à la guerre doit donner un acte de divorce à sa femme, de peur qu'il se fasse prisonnier, et pendant des années, et donc sa femme ne peut plus se remarier, elle ne peut plus rien faire, et si elle est jeune, c'est une atrocité pour elle. Donc, David avait imposé, tout soldat qui part à la guerre donne un guet à sa femme, un acte de divorce. Bien sûr que la femme l'attend avec impatience qu'il revienne et qu'il se remarie. Donc quand David a pris Bathsheba, elle n'était plus une femme mariée. Mais d'un autre côté, il a eu un rapport avec elle avant de se marier avec elle. Et c'est sûr qu'elle, elle attendait le retour de son mari, donc c'était une faute morale, c'était pas un adultère, mais c'était une faute morale inimaginable. D'ailleurs, il a été gravement puni pour cette faute-là. Comment qu'il a pu fauter alors que c'était un homme d'une intégrité, d'une justice, d'une justesse, un homme incroyable qui arrivait à unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais parce que les yeux nous piègent et personne ne peut échapper, ne serait-ce qu'une fois, à tomber avec ses yeux. Et là, on comprend vraiment d'une manière magnifique ce que nous dit le texte. Même si tu es un tzaddik, même si le monde entier dit que tu es un tzaddik, fais attention à tes yeux, parce que tes yeux peuvent te faire tomber. Parce que les yeux ne te montrent que l'extériorité de ce monde. Et tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intériorité. J'ai souvent rapporté cette histoire extraordinaire qu'il y avait, le Talmud rapporte une histoire. Il y avait un très 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 grand maître qui était un homme exceptionnel, un homme extraordinaire, et il n'était jamais tombé. Et un jour, le Satan est venu, bon, je raconte l'histoire d'après sans la décoder, le Satan est venu devant Dieu et il a dit à Dieu, mais regarde, cet homme-là n'est jamais tombé, laisse-moi, je vais essayer de le faire tomber. Hachem dit au Satan, écoute, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, il ne tombera pas. Le Satan dit, laisse-moi faire. Le Satan se déguise en femme d'une beauté inimaginable, dit le Talmud, avec une lumière, aucun homme ne peut résister. Elle rentre dans le lieu d'étude où il est en train d'étudier. Elle le touche sur l'épaule et elle lui parle avec un ton dévastateur. Il se retourne, il la voit, il sent qu'il va craquer, il sort un couteau de sa poche et il se crève les deux yeux pour ne plus la voir. Ça veut dire que même un homme d'une grandeur inimaginable a senti qu'il allait tomber. Et donc, il a fait quelque chose de très grave, il s'est crevé les yeux pour ne pas tomber. Il est devenu aveugle. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? Que même un homme d'une grandeur inimaginable, ses yeux peuvent le faire tomber. Donc c'est quelque chose de très 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 dangereux, les yeux. C'est pour ça que nos maîtres disent, attention, par rapport à tes yeux, tu peux être un rachat. Maintenant on comprend encore une fois magnifiquement cette phrase. Même si tu es un homme droit, un homme juste, un homme intègre, que tu n'es jamais tombé, méfie-toi de tes yeux, parce que tes yeux peuvent te faire tomber et faire de toi un homme méchant. Maintenant, regardez ce que dit le Tanya, le Balatanya, le Admour Hazaken. Il dit, pourtant, il y a une autre phrase qui dit, « Alterasha bifne atzmecha ». Là aussi, chaque mot est un mot codé que je vais décoder devant vous. « Atzmecha », ça vient du mot « etzem », qui veut dire « ton intériorité ». En vérité, qu'est-ce que le Balatanya veut nous faire comprendre ? Il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Tes yeux t'amènent vers le monde de l'extériorité. Et dans le monde de l'extériorité, même si tu es aujourd'hui injuste, demain tu peux tomber. Et le Tanya rapporte une autre phrase du Talmud qui dit « Ne te vois pas dans ton intériorité comme un rachat ». Ça veut dire que dans ton intériorité, tu ne dois pas te voir comme un rachat. Pourquoi ? Parce que même quand un homme faute, il faute uniquement parce qu'il est tombé dans le monde de l'extériorité. Mais en vérité, dans le monde de l'intériorité, c'est-à-dire surtout au niveau de l'âme qui est en moi, je ne peux pas tomber. C'est pour ça que le deuxième texte dit « Ne te vois pas comme un rachat dans ton intériorité ». Ça veut dire que tu dois toujours avoir l'espoir que même si tu es tombé, tu peux te relever et tu peux faire tes chouvas et tu peux revenir à un monde authentique qui est le monde de l'intériorité. C'est ce que disent d'ailleurs nos maîtres, enfin c'est ce que dit le roi Shlomo HaMeler, le roi Salomon. Shiva yipol tzadik vekam. Sept fois le juste tombe, mais il se relève. Pourquoi le juste tombe ? Parce que même un juste peut des fois se faire piéger par ses yeux. Mais pourquoi il se relève ? Parce qu'il ne se considère pas comme un méchant dans son intériorité. Il sait que ce qu'il l'a fait tomber, c'est parce que malheureusement, il a eu une faiblesse au niveau de l'extériorité de ce monde. C'est l'extériorité du monde qui nous fait tomber, pas l'intériorité. Et c'est pour ça que même s'il tombe cette fois, il finit par se relever. Quelle est la conclusion de ce que j'explique ? J'explique la chose suivante. Même un homme droit, même un homme juste, même un homme intègre, et je parle de quelqu'un qui est dans ce monde et qui, tout en étant connecté au maître du monde, est malgré tout dans ce monde, et c'est pour ça que le monde entier dit de lui que c'est un juste, c'est un sadique. Il doit surtout ne pas se bercer d'illusions et savoir que malgré le fait que le monde entier dit que c'est un homme juste, il peut tomber. Comment il peut tomber s'il suit ses yeux ? S'il voit une belle femme, s'il voit qu'on met sur sa table 1 million d'euros en échange d'un mauvais coup qu'il va faire dans les affaires. Ça veut dire que si tu ne suis que tes yeux, qui va résister à 1 million d'euros ? Qui va résister à une belle femme ? Il ne va pas résister et il peut tomber. Mais l'autre verset dit, malgré le fait que tu tombes, ne te vois jamais comme un rachat, comme un méchant dans ton intériorité. Parce que c'est ton extériorité qui t'a fait tomber, pas ton intériorité. Et c'est comme ça qu'on fait teshuva. C'est quoi teshuva ? Le mot teshuva veut dire revenir. Ça veut dire que tu quittes l'extériorité et tu reviens dans ton intériorité. C'est ça la vraie teshuva. D'ailleurs, c'est pour ça que le Shabbat s'appelle Shabbat, qui veut dire revenir. Pourquoi ? Parce que pendant toute la semaine, on vit dans le monde de l'extériorité, avec toutes les tentations, toutes les séductions, tous les pièges du monde de l'extériorité. Mais le Shabbat, on quitte le monde de l'extériorité, et Shabbat veut dire revenir. On revient vers son épouse, on revient vers ses enfants, on revient vers sa famille, on revient vers Dieu, on revient vers la prière, on revient vers toutes ces choses qui nous reconstruisent dans notre intériorité. Et donc c'est pour ça que le Shabbat est d'une importance inimaginable. Quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, c'est absolument impossible et impensable qu'il ne tombe pas. Car malheureusement, comme je l'ai expliqué, même un juste peut tomber s'il suit le monde de l'extériorité. Mais à plus forte raison, celui qui fait Shabbat, il est plus protégé. Et donc il pourra se faire, on pourrait dire, des boucliers qui le protégeront lorsque, après, il retournera dans le monde de l'extériorité. C'est pour ça que le Shabbat est d'une importance inimaginable. Au point que nos maîtres nous disent dans le Talmud qu'en vérité, que la lumière qui est cachée dans le Shabbat, personne ne la connaît. Et en vérité, lorsqu'un homme respecte véritablement le Shabbat, c'est-à-dire qu'il arrête toute activité matérielle, et une fois par semaine, je ne dis pas toute la semaine, mais une fois par semaine, il revient à une dimension beaucoup plus spirituelle, c'est comme ça qu'il arrive à cet équilibre entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, et c'est comme ça que finalement, même quand il retourne après au travail, il retourne dans la vie matérielle, il ne tombe pas. Parce que le Shabbat dépose en lui une lumière qui est tellement forte que c'est comme ça qu'il ne tombe pas. Voilà, on va continuer encore un petit peu. Donc on a expliqué ce que ça veut dire. Ne te vois pas comme un rachat dans ton intériorité. Et le Balatania continue et il dit Vegamimiye Beinaf Keracha. En plus, il pose une autre question maintenant, le Balatania, il dit si un homme se voit comme un rachat, Yera Levavo, ça va finalement le faire tomber. Veye Atsuv, il va tomber dans la tristesse. Velo yuchala avod Hashem besimcha o betuv levav. Il ne pourra plus servir Hashem dans la joie et avec un bon cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'il revient sur la question qu'on a demandé. Comment on peut dire à un homme, vois-toi comme un rachat? Alors moi j'ai expliqué le secret qui se cache derrière tes yeux peuvent te faire tomber et tu peux devenir un rachat. Mais malgré tout, le Balatania, parce qu'il va répondre par la suite, il faut savoir qu'il ne va pas répondre tout de suite, ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'il réponde, mais en tous les cas, il y a énormément de textes à voir. Mais il pose malgré tout une question. Il n'est pas bon qu'un homme se voit comme un rachat, parce que si un homme se voit comme un rachat, finalement il va sombrer dans la tristesse, et il ne pourra plus servir Hachem dans la joie, dans la simcha. Bon, je traduis par joie, bien que c'est un peu plus profond que ça. Là, je voudrais m'arrêter quelques secondes avant de terminer ce cours, et je voudrais rebondir sur ce que dit le Balatania. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu dans la joie et avec un bon cœur? Alors bon, j'ai traduit en français, mais en vérité, la simcha n'a rien à voir avec la joie telle qu'on le comprend en français. Nos maîtres disent dans le Talmud, « En simcha et la balève ». La simcha, elle est dans le cœur. La simcha, c'est pas « je suis content, je suis heureux, je me marre, etc. » En simcha et la balève. Ça veut dire qu'il faut que ton cœur soit propre. Il faut que ton cœur soit propre. Il faut que ton cœur soit, on pourrait dire, libéré de toutes les saletés, de toutes les clipotes, de toutes les écorces qui, d'une certaine manière, salissent et pourrissent ton cœur et te déconnectent complètement d'Hachem. Nos maîtres disent dans différents endroits, y compris dans le Zohar, que finalement, la partie du corps la plus importante qui nous déconnecte d'Hachem, c'est le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que même si un homme, d'une certaine manière, croit en Dieu, même si un homme, je dirais, mais même s'il étudie la Torah, mais que son cœur est sale, et qu'est-ce que c'est un cœur sale? Un cœur sale, ça veut dire que finalement, mes sentiments sont plus forts que ma raison. Comme on le verra, comme il va l'expliquer un peu plus tard, enfin ça va prendre encore du temps, parce qu'on va doucement, mais il va expliquer plus tard quels sont les défauts du cœur, justement. Et le cœur, c'est le monde des sentiments. Le problème, c'est que l'homme est beaucoup plus fragile devant ses sentiments que devant sa pensée. Excusez-moi de revenir sur cet exemple, mais malheureusement, c'est aujourd'hui une catastrophe. Un homme peut très bien aimer sa femme, il est marié, il aime sa femme, etc. Mais s'il est en voyage et qu'il tombe sur quelqu'un de très séduisant, quel est l'homme qui va pouvoir se retenir? Et on peut les compter sur les 10 doigts de la main. La majorité des hommes tombent. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Non, mais il voulait s'amuser. Le sentiment a été plus fort que sa conscience. Sa conscience, c'est que je dois être fidèle. Oui, mais le sentiment est plus fort. Et dans un autre domaine, un homme peut, sur le plan de sa conscience, vouloir être un homme droit, être un homme moral. Mais si un homme d'affaires vient, il est lui-même dans les affaires, il lui propose 1 million d'euros sous la table en échange d'une signature pour un contrat douteux, qui va résister? Parce que l'envie de l'argent, 1 million d'euros, qui va refuser 1 million d'euros pour une simple signature? Qui va refuser? Ça veut dire qu'en vérité, le cœur, malheureusement, nous domine beaucoup plus que la conscience. D'ailleurs, comme on le verra plus tard, le Balatania va dire une chose extraordinaire, que tout le travail de l'homme, c'est de soumettre le cœur à la conscience. Ça veut dire de grandir et de renforcer notre conscience avec une telle force que rien ne puisse nous faire tomber en passant par le cœur. Mais 99% des hommes et des femmes dans ce monde vivent avec leur cœur et ne vivent pas avec leur cerveau. Et quand je dis ne vivent pas avec leur cerveau, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas conscience de ce qui doit être le bien. Mais au moment de l'épreuve, ils ne tiennent pas. Au moment de l'épreuve, ils tombent. Parce qu'encore une fois, le sentiment est plus fort que la conscience. Donnons un exemple simple, la faute de Adam et Ève. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle a vu avec ses yeux la beauté des fruits. Elle a eu une tava, elle a eu un désir énorme. Et pourtant, elle avait clairement entendu de la bouche de son mari, qui lui-même l'avait entendu directement d'Hachem, et elle n'avait aucun doute que son mari disait la vérité, qu'il ne fallait pas manger de ce fruit-là. Bon, je parle d'après les codes, hein, je décode pas. Mais elle savait très bien que c'était interdit. Mais qu'est-ce que nous dit le texte? Elle a été séduite par la beauté de l'arbre, et cette beauté a fait naître en elle un désir qu'elle n'a pas pu surmonter. C'est le désir qui l'a fait tomber, pas forcément parce qu'elle n'avait pas la conscience de ce qui était bien ou ce qui était mal. De là, on comprend encore une fois que la plus grande chose qui puisse arriver à un homme, dans le sens du mal, c'est lorsque son cœur tombe. Et justement, on comprend maintenant ce que dit le Balatania. Si un homme se voit comme un rachat, ça veut dire si un homme, d'une certaine manière, normalise le mal qu'il fait dans ce monde, la corruption, les femmes ou d'autres choses, même si au niveau de sa conscience est un homme droit, il ne tiendra pas, il ne pourra pas servir Hachem. C'est pour ça que le Balatania nous dit il faut servir Hachem besimcha. C'est quoi besimcha? En simcha el abalev, la simcha elle est dans le cœur. C'est quoi la simcha? C'est ce sentiment de force, ce sentiment de puissance, ce sentiment de courage qu'il y a dans le cœur, car qu'on le sait aussi, le courage est une force du cœur, pas une force de la conscience. Un cœur fort, un cœur courageux, un cœur de guerrier. Et c'est ça la simcha, que j'ai traduit malheureusement par la joie, mais ça n'a rien à voir avec la joie. La joie, la simcha, c'est la force du cœur. Comment le cœur peut être fort? Uniquement s'il est protégé de toutes les tentations, de toutes les séductions de ce monde. Uniquement lorsque l'homme arrive à renforcer sa conscience plus encore que son cœur. À ce moment-là, il peut véritablement servir Hachem. Mais quelqu'un qui, soi-disant, sert Hachem, même s'il mange kasher, même s'il fait Shabbat, même s'il accomplit les commandements, mais dès qu'il est dans ce monde, il n'arrive pas à résister, il tombe, en vérité, il ne sert pas Hachem du tout. Donc c'est pour ça que le Balatania nous dit ici qu'il ne faut pas se voir comme un rachat. Et comme il expliquera plus loin, comme je l'ai expliqué moi-même, ça veut dire qu'il faut avoir peur de ses yeux, parce que les yeux peuvent faire de nous un rachat. Mais dans ton intériorité, dans ton cœur, ne te vois pas comme un rachat, sinon tu vas tomber encore plus. Voilà mes amis, on va s'arrêter aujourd'hui J'ai l'intention, chaque cours que je vais faire, le cours de Tania, le cours de Zohar et le cours sur le roi David, de faire des cours d'une quarantaine de minutes parce que ce sont des cours très profonds, très importants. Je ne veux pas faire un cours trop long parce que dans ce cas-là, je sais que beaucoup ne l'écouteront pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis même s'ils l'écoutent, ils ne vont pas pouvoir se concentrer sur les notions importantes que j'ai dit dans ce cours. Donc on arrête ce cours aujourd'hui, 40 minutes, des fois 45 minutes. Et on se retrouve donc mardi matin pour un cours de Zohar. À tous et à toutes, une très très bonne journée.